France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Le poète, romancier, nouvelliste, critique littéraire, dramaturge et éditeur américain Allan Edgar Poe est l'une des principales figures du romantisme américain de la première moitié du XIXe siècle. Si son œuvre est à redécouvrir d'urgence, sa vie, étrange et pleine de rebondissements, ne l'est pas moins. Il est l'auteur de la très célèbre « Histoire de la lettre volée » dont Lacan fit un mémorable commentaire. Edgar Poe fut traduit en français par Baudelaire et par Mallarmé. En 1857 paraît en français un recueil des contes d'Allan Edgar Poe, Les nouvelles histoires extraordinaires, traduit et rassemblé par Charles Baudelaire. On y trouve l'histoire courte, intitulée L'île de la fée, dont nous écoutons un large extrait, lu ici par Alain Cuny.
Les contes de la veillée. Alain Cuny lit des extraits du conte « L'île de la fée » d'Edgar Poe, traduction de Charles Baudelaire.
Ce fut dans un de mes voyages solitaires, dans une région fort lointaine. Montagne compliquée par des montagnes, méandre de rivières mélancoliques, lacs, sombres et dormants, que je tombais sur certains petits ruisseaux avec une île. J'y arrivais soudainement dans un mois de juin, le mois du feuillage, et je me jetais sur le sol, sous les branches d'un arbuste odorant qui m'était inconnu, de manière à m'assoupir en contemplant le tableau. Je sentis que je ne pourrais le bien voir que de cette façon, tant il portait le caractère d'une vision. De tous côtés, excepté de l'ouest, où le soleil allait bientôt plonger, s'élevaient les murailles verdoyantes de la forêt. La petite rivière, qui faisait un brusque coude et ainsi se dérobait soudainement à la vue, semblait ne pouvoir pas s'échapper de sa prison. Mais on eût dit qu'elle était absorbée, vers l'est, par la verdure profonde des arbres. Et du côté opposé, cela m'apparaissait ainsi, couché comme je l'étais et les yeux au ciel, tombait dans la vallée sans intermédiaire et sans bruit une splendide cascade, or et pourpre, vomie par les fontaines occidentales du ciel. À peu près au centre de l'étroite perspective qu'embrassait mon regard visionnaire, une petite île circulaire magnifiquement verdoyante reposait sur le sein du ruisseau. La rive et son image étaient si bien fondues que le tout semblait suspendu dans l'air. L'eau transparente jouait si bien le miroir qu'il était presque impossible de deviner à quel endroit du talus d'émeraude commençait son domaine de cristal. Ma position me permettait d'embrasser d'un seul coup d'œil les deux extrémités, est et ouest de l'îlot, et j'observais dans leurs aspects une différence singulièrement marquée. L'ouest était tout un radieux harem de beauté de jardin. Il s'embrasait et rougissait sous l'œil oblique du soleil et souriait extatiquement par toutes ses fleurs. Le gazon était court, élastique, odorant et parsemé d'asphodèles. Les arbres étaient souples, gais, droits, brillants, sveltes et gracieux. Orientaux par la forme et le feuillage, avec une écorce polie, luisante et versicolore. On eût dit qu'un sentiment profond de vie et de joie circulait partout. Et, quoique les cieux ne soufflassent aucune brise, tout cependant semblait agité par d'innombrables papillons qu'on aurait pu prendre dans leurs fuites gracieuses et leurs zigzags pour des tulipes ailées. L'autre côté, le côté est de l'île, était submergé dans l'ombre la plus noire. Là, une mélancolie sombre, mais pleine de calme et de beauté, enveloppait toute chose. Les arbres étaient d'une couleur noirâtre, lugubre de formes et d'attitudes, se tordant en spectres moroses et solennels, traduisant des idées de chagrin mortel et de mort prématurée. Le gazon y revêtait la teinte profonde du cyprès, et ses brins baissaient languissamment leurs pointes. Là, s'élevaient éparpillés plusieurs petits monticules maussades, bas, étroits, pas très longs, qui avaient des airs de tombeau, mais qui n'en étaient pas, quoiqu'au-dessus et tout autour grimpassent la rue et le romarin. L'ombre des arbres tombait pesamment sur l'eau et semblait s'y ensevelir, imprégnant de ténèbres les profondeurs de l'élément. Je m'imaginais que chaque ombre, à mesure que le soleil descendait plus bas, toujours plus bas, se séparait à regret du tronc qui lui avait donné naissance et était absorbé par le ruisseau, pendant que d'autres ombres naissaient à chaque instant des arbres, prenant la place de leurs aînés défuntes. Cette idée, une fois qu'elle se fut emparée de mon imagination, l'excita fortement et je me perdis immédiatement en rêverie. Si jamais il fut enchanté, me disais-je, celle-ci l'est, bien sûr. C'est le rendez-vous des quelques gracieuses fées qui ont survécu à la destruction de leur race. Ces vertes tombes sont-elles les leurs? Rendent-elles leur douce vie de la même façon que l'humanité? Ou plutôt, leur mort n'est-elle pas une espèce de dépérissement mélancolique? Rendent-elles à Dieu leur existence petit à petit, épuisant lentement leur substance jusqu'à la mort comme ces arbres rendent leurs ombres l'une après l'autre. Ce que l'arbre qui s'épuise est à l'eau qui en boit l'ombre et devient plus noir de la proie qui l'avale. La vie de la fée ne pourrait-elle pas bien être la même chose à la mort qui l'engloutit? Comme je rêvais ainsi, les yeux à moitié clos, tandis que le soleil descendait rapidement vers son lit, et que les tourbillons couraient tout autour de l'île, portant sur leurs seins de grandes, lumineuses et blanches écailles, détachées des troncs des sycomores, écailles qu'une imagination vive aurait pu, grâce à leur position variée sur l'eau, convertir en tel objet qu'il leur aurait plu. Pendant que je rêvais ainsi, il me sembla que la figure d'une de ces mêmes fées dont j'avais rêvé, se détachant de la partie lumineuse et occidentale de l'île, s'avançait lentement vers les ténèbres. Elle se tenait droite, sur un canot singulièrement fragile, et le mouvait avec un fantôme d'aviron. Tant qu'elle fut sous l'influence des beaux rayons attardés, son attitude parut traduire la joie. Mais le chagrin altéra sa physionomie quand elle passa dans la région de l'ombre. Lentement, elle glissa tout le long, fit peu à peu le tour de l'île et rentra dans la région de la lumière. La révolution qui vient d'être accomplie par la fée, continuai-je toujours rêvant, est le cycle d'une brève année de sa vie. Elle a traversé son hiver et son été. Elle s'est rapprochée de la mort d'une année. Car j'ai bien vu que, quand elle entrait dans l'obscurité, son ombre se détachait d'elle et était engloutie par l'eau sombre, rendant sa noirceur encore plus noire. Et de nouveau le petit bateau apparaît avec la fée. Mais dans son attitude, il y avait plus de souci et d'indécision et moins d'élastique allégresse. Elle navigua de nouveau de la lumière vers l'obscurité qui s'approfondissait à chaque minute et de nouveau son ombre se détachant tomba dans l'ébène liquide et fut absorbée par les ténèbres. Et plusieurs fois encore elle fit le circuit de l'île pendant que le soleil se précipitait vers son lit et à chaque fois qu'elle émergeait dans la lumière il y avait plus de chagrin dans sa personne et elle devenait plus faible et plus abattue et plus indistincte. Et à chaque fois qu'elle passait dans l'obscurité, il se détachait d'elle un spectre plus obscur qui était submergé par une ombre plus noire. Mais à la fin, quand le soleil eut totalement disparu, La fée, maintenant pure fantôme d'elle-même, entra avec son bateau, pauvre, inconsolable, dans la région du fleuve d'Ébène. Et si elle en sortit jamais, je ne puis le dire, car les ténèbres tombèrent sur toute chose, et je ne vis plus son enchanteresse figure.
Alain Cuny a lu des extraits du conte « L'île de la fée » d'Edgar Poe, traduction de Charles Baudelaire. Les contes de la veillée. Réalisation Bernard Latour.
Cette émission a été diffusée pour la première fois le 6 février 1963 sur France Culture.